pouvoir ouvrir la parole, de la partager avec vous. Pour moi, je prends ça vraiment comme un honneur, parce que c'est un jour vraiment particulier. Et alors que je réfléchissais à ce que je souhaitais partager, il va falloir que je fasse le yo-yo entre le haut et le bas, excusez-moi. Alors je priais, je réfléchissais, Seigneur, qu'est-ce que je veux apporter? Dieu m'a mis vraiment sur mon cœur un passage particulier, un texte qui concerne l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a souvent été dans ma vie une source d'inspiration dans tout un tas de domaines par rapport à son ministère, par rapport à ce que cet homme a vécu. Et il y aurait tellement de choses à dire sur le ministère de Paul, mes frères et sœurs. Tellement de choses à dire, un ministère vraiment complet. Et souvent, je suis admiratif de la carrière, parce que lui, il parle d'une carrière, il parle de sa carrière, de son ministère. Et vraiment, on pourrait souligner tellement de choses concernant la vie de Paul. On pourrait souligner le caractère extraordinaire de ce ministère de puissance. Souvent, moi, j'ai ces textes en tête de Paul qui, à un moment donné, va délivrer, va sauver, va même ressusciter. Rappelez-vous ce jeune homme qui tombe d'une fenêtre et qui tombe mort sur le coup. Et Paul va intervenir, va prier, et ce jeune homme va retrouver la vie. Quel ministère extraordinaire! Et puis, oui, ministère de puissance, mais pas que. Il est aussi un ministère de la parole. Je pense que si on devait décrire juste le ministère de Paul au travers de la puissance que Dieu lui a donnée, lui a accordée au travers de l'imposition des mains, au travers de ce qu'il a pu faire, on pourrait passer à côté de quelque chose d'extraordinaire qui est ce ministère de la parole. Il a écrit un tiers de la Bible. Je ne sais pas si vous imaginez, au travers des épîtres, 13 épîtres, alors c'est sûr, c'est plutôt controversé quant à savoir qui est l'auteur exactement, on pense que certains textes sont de Paul, certains sont évidemment de lui. Mais c'est vous dire combien ce ministère a été prolifique dans la parole. Mais moi, il y a une chose qui m'interpelle encore plus dans le ministère de Paul, c'est ce qu'il a semé, et c'est l'impact qu'il a eu dans les vies des gens. Parce que quelque part, si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, cet homme a décidé de s'occuper de ceux qui étaient déchus de la grâce. Nous ne faisions pas partie du plan, mais Dieu, dans son infinie sagesse, savait ce qu'il faisait. À un moment donné, il a décidé d'ouvrir les portes. Et Dieu l'a fait au travers de Pierre quand il a prêché à Corneille. Mais certes, mais ça va plus loin. Il l'a fait au travers d'un ministère Paul qui est allé auprès des gentils. Et nous sommes plus ou moins tous les enfants de Paul. Nous sommes plus ou moins tous les héritiers du ministère de cet homme. C'était un ministère apostolique. Il a prêché. Chaque fois qu'il arrivait dans une ville, peu importe, lorsqu'il en repartait, il y avait une église. Je trouve ça extraordinaire. Les âmes qui ont été sauvées, qui ont donné leur cœur à Jésus au travers de ce ministère, ne peuvent se compter tellement ce ministère a été prolifique. Alors souvent, moi, quand je regarde ce ministère-là, quand je regarde l'œuvre que ce ministère accomplit, et que vous m'avez compris, je ne veux pas simplement regarder au ministère de puissance, je ne veux pas simplement regarder au ministère de la parole. Moi, je suis interpellé par le ministère prolifique quant à ce qu'il a semé, quant à ce qu'il a bâti, les églises qu'il a bâties, les personnes qui sont venues au travers de Christ à l'huile. Il a été un instrument du salut. Et quand je vois l'instrument du salut que Paul a été, j'ai envie de dire, moi, dans mon cœur, « Hey, Seigneur !» Quelque part, comment ne pas dire, « Ah, j'aimerais bien avoir l'impact de cet homme. J'aimerais bien, Seigneur, que... » Et d'ailleurs, Paul va dire, « Soyez mes imitateurs. Seigneur, je voudrais, quelque part, que tu puisses m'utiliser comme Paul a été utilisé. » Alors, on pourrait se poser la question, et aujourd'hui, vous savez, c'est super intéressant quand vous allez sur Internet, vous pouvez trouver des tutos sur tout. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Dernièrement, j'ai cherché un tuto sur comment réparer mon vélo, sur comment réparer ma plomberie, sur comment... je ne sais pas si ça vous arrive. Et j'aurais tellement voulu avoir un tuto de Paul qui m'explique comment il avait fait ça. Ça dure 5 minutes, vous en prenez plein la tête, mais à la fin, vous avez compris certaines choses. Et quelque part, j'aimerais vous dire que Paul nous a laissé un tuto. Un tuto dans ses lettres. Et dans une de ses lettres en particulier, dans celle aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, Paul nous a laissé un tuto de comment être prolifique, comment être un instrument de bénédiction, comment être cet instrument qu'il a été pour sauver et être une bénédiction. Alors, c'est un message de vision ce matin, et Je crois que le Saint-Esprit veut parler à nos cœurs au travers de ce tuto spirituel que Paul nous a laissé au travers des Écritures. Et j'aimerais vous amener dans cette lecture avec moi, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Et ce texte va s'afficher. Et il nous donne un conseil qui va détailler, qui va être lu au travers de 3 exemples, voire 4 exemples très spécifiques. Et permettez-moi dans un premier temps de creuser ce que Paul a voulu dire. Voilà ce qu'il nous dit, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur, et voir les versions que vous avez, esclave de tous. » Et notez bien ça, « afin de gagner le plus grand nombre. » Alors quand Paul dit ça, on pourrait dire « Bon, mais Paul, t'aurais pu en mettre un peu plus, et c'est ce qu'il a fait. » Et si on en reste là, on pourrait dire « Bon, mais Seigneur, c'est bien, merci. » Nous avons peut-être partiellement compris là où tu veux nous amener. Maintenant, il faut lire la suite pour comprendre. Et voilà le premier point que je voudrais développer avec vous au travers de ce que Paul va dire. On va faire une lecture un peu systématique. On va avancer sur les vignettes, s'il te plaît. Voici ce qu'il nous est dit. Il devient comme sous la loi. Voici ce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20. Voici la première exemple qui nous aide à comprendre ce que Paul a voulu dire. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Il faut comprendre le contexte dans lequel Paul vient et ce qui marque le ministère de Paul. Parce qu'on pourrait penser que la chose fut aisée pour Paul. On pourrait penser que, quelque part, se comporter comme un juif, marcher sous la loi, comme il le dit, a été une chose simple, sauf que ce n'est pas comprendre quel était le ministère de Paul. Paul était un ministère de la grâce. C'est une chose qui doit jaillir dans nos cœurs quand on pense à Paul, c'est l'évangile, c'est l'épître de Galates, quand à un moment donné, Paul manifeste ses convictions quand il dit « c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Et il insiste là-dessus sous plein de formes. Quand il parle même dans le livre de Galates, à un moment donné, il exprime ses convictions personnelles, il dit « mais ceux qui marchent sous la loi » sont dans une malédiction. Et malheur à celui qui pratique la loi sans la pratiquer complètement. Et qu'est-ce que Paul veut dire par là? Mais si tu veux marcher sous la loi, marche sous la loi, mais quelque part tu n'y arriveras pas. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu marches sous la grâce, sous l'amour. Et donc, quand on comprend le ministère de Paul, Paul avait compris une réalité spirituelle. C'est que la loi n'apporterait rien de bon. Elle a été un instrument. Mais quand Jésus est venu, il a installé la grâce qui nous conduit à l'obéissance par l'amour, mes frères et sœurs. Et ça transcende toute la vie de Paul. Quand à un moment donné, Paul se retrouve dans Actes chapitre 15, il a même discuté avec d'autres juifs qui venaient, qui voulaient imposer la loi au sein de l'Église. Paul, à un moment donné, il part de vives discussions. Et quand ils étaient là, et je vois ce texte où Paul prend position pour les non-juifs, et en leur disant, mais on ne va pas leur imposer ça, ce n'est pas la liberté en Christ. Paul était un ministère de la grâce, c'était un guerrier de la grâce. Il aimait la grâce, il transpirait la grâce, il prêchait la grâce, il vivait la grâce. Tout son corps, son être entier vivait la grâce parce qu'il avait compris, il avait saisi l'importance que c'est de marcher non sous la loi mais sous la grâce, par l'obéissance dans l'amour. Alors quand on comprend quel est le ministère de Paul, à ce à quoi il est attaché, quand on lit ça, on se dit il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que notez bien ce qu'il est dit. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Qu'est-ce que dit Paul? Pour les Juifs et pour ceux qui étaient sous la loi, je me suis mis moi-même sous la loi. Lui qui a combattu l'œuvre de la loi, ce que les hommes ont voulu en faire dans l'Église, lui-même, par amour et pour gagner les Juifs, a décidé de se mettre lui-même sous la loi. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais quand on comprend le cœur de Paul, qui aimait sa génération, il a été capable de faire une chose, renoncer à sa liberté pour amener ceux qui étaient sous la loi à l'obéissance de Christ. Paul va plus loin. Et permettez-moi d'aller plus loin dans le verset suivant, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, écoutez-moi bien, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Là, on passe d'un extrême à l'autre. Il parle de ceux qui sont sous la loi et il nous dit « j'ai été sous la loi ». Et là, d'un coup, d'un verset à l'autre, il part dans l'autre extrême. Il dit « voilà, ben, ceux qui étaient sans la loi, eh ben, écoutez, moi je suis devenu comme ceux qui sont sans la loi ». Waouh ! Et là encore, on pourrait dire c'était peut-être facile pour Paul parce qu'il avait une culture particulière, il était grec, il était à la fois romain. Il avait tellement de palettes à son arc, tellement de flèches, tellement d'éléments qui... C'est une mosaïque culturelle, Paul. Sauf que Paul, et c'est ce qu'il nous a dit, Saul de Tarse a été élevé dans la pure tradition rabbinique, pharisiénique. Et vraiment, c'était un homme qui a grandi sous les enseignements. On sait qu'il a grandi sous les enseignements Gamaliel. C'était un homme érudit, c'était un homme qui était profondément ancré dans la parole. Et si Paul a rejeté une partie, comprenez-moi, de tout ce qui est rituel, tout ce qui était loi, de tout ce qui était imposé dans la religion juive, pour vivre dans la liberté, pour autant sa culture, elle, était imprégnée de la culture juive. Imprégnée. Difficile de voir en Paul quelqu'un qui, dans sa culture et dans ce qu'il était tellement différent d'un juif. Non, il vivait comme un juif, il respirait comme un juif. Et pendant toute une partie de sa vie, il a été baigné dans cette culture. Culture qu'on retrouve aussi très présente dans l'Église dans les premiers siècles. Je dis ça parce que quand on prend ce fameux texte où, à un moment donné, Paul va reprendre Pierre, le texte est suffisamment clair pour comprendre qu'il y avait encore du chemin à faire dans l'Église. Parce que quand Pierre va venir dans cette Église, qui n'était pas une Église de Juifs, il nous a dit que Pierre va manger avec des non-juifs. Et il va participer à la culture non-juive. Et quand des juifs de Jérusalem vont arriver, Pierre, il s'est dit, oh là là, comment ils vont interpréter le fait que je mange avec des non-juifs, que je participe aux fêtes, que je participe au repas? Et Pierre a préféré s'en aller et faire croire aux juifs qui arrivaient qu'ils ne prenaient pas part à la vie des non-juifs. Paul, sur ce, arrive, comprend ce qui se passe et dit à Pierre, en face, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Pierre? C'est de l'hypocrisie. Tu manges avec les non-juifs et quand les juifs arrivent, tu t'en vas parce que tu ne veux pas qu'ils comprennent que tu manges avec eux. Voilà. La culture juive était très imprégnée dans l'Église primitive encore, à un point tel que quelque part, c'était encore mal vu de manger avec des non-juifs. Paul vient de cette culture, venait de cette culture, a grandi dans cette culture. Pour autant, qu'est-ce qu'a décidé de faire Paul? Il a décidé de renoncer. Il a fait le choix de renoncer à sa culture, à ce qu'il a bâti, à ce qu'il a construit, à peut-être de la tradition, à des choses qui étaient établies depuis des siècles et des siècles et qui se transmettaient dans sa famille. On ne mangeait pas avec des juifs, des non-juifs, on ne participait pas aux fêtes non-juives, on ne vivait pas comme des païens. Paul, rentrant dans son ministère, a fait le choix d'être comme ceux qui étaient sans loi. Hein? C'est intéressant. C'est très intéressant. Parce que Paul, à la limite, vous savez, et je trouve ça très intéressant parce que Paul clarifie les choses, on pourrait dire, ah ben, Paul a vécu sans loi, il a fait n'importe quoi. Non. Et peut-être qu'il y aurait une tendance aujourd'hui au sein de différentes églises, au sein de différents mouvements, ah ben, vivons sans la loi, pour être au plus près. Sauf que c'est pas ce que Paul dit. Il dit, certes, j'étais sans loi pour être semblable et me rapprocher de ceux qui étaient sans loi, mais Paul rajoute une autre vérité, sans pour autant délaisser la loi de Christ. Et c'est tellement important de comprendre ce que Paul est en train de dire, parce qu'on pourrait tomber dans l'autre extrême, où à un moment donné, on est dans l'extrême très rigide, pharisiénique, où à un moment donné, on est rigide, où on peut partir dans l'autre extrême, où peut-être on pourrait autoriser le péché, et dire, ah, vivons le péché dans l'Église, c'est pas grave. Paul a dit, vivons comme ceux qui sont sans loi. Ce c'est pas ce que Paul a dit. Paul a décidé d'être au plus près de ceux qui étaient sans loi, sans pour autant renier la loi que Christ avait écrite dans son cœur. Amen. Ok. Troisième chose que Paul dit. Il va dire ceci, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner. Vous pouvez le dire ? Ouais. Paul a été comme ceux qui étaient sous la loi. Paul a été comme ceux qui étaient sans la loi. Et notez bien une différence majeure dans les différentes expressions. Là, Paul, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai été faible. Il n'y a plus de comme. Comme traduit l'idée que, quelque part, il s'est acclimaté, il a pris la forme d'un serviteur, il a pris la forme de quelqu'un qui était sous la loi, il a pris la forme de quelqu'un qui était sans la loi, sans pour autant être lui-même. Là, dans ce passage-là, Paul, et c'est le passage suivant, la vignette suivante, Paul spécifie les choses différemment. Il dit que finalement, il a été faible pour sauver les plus faibles. C'est intéressant parce que souvent Paul parle de ses faiblesses. Souvent il mentionne dans ses différentes épîtres ce qu'il vivait peut-être dans son quotidien, ses difficultés. Et quand on lit les différents passages qui font référence à ses faiblesses, elles vont s'afficher dans quelques instants, on comprend que Paul a vécu une expérience. Quand il parle de l'écharpe dans sa chair, il parle d'une écharpe qui sans doute lui faisait mal, qui le pénalisait, qui le paralysait peut-être, qui était un frein. Pour autant, voici ce que Paul va dire à un moment donné dans ce texte, quand il va dire « Ma grâce te suffit ». Amen. Est-ce que vous connaissez la suite ? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul avait compris une réalité spirituelle. C'est celle que, tout simplement, il a prié trois fois pour que Dieu le délivre de cette écharpe. Et Dieu va lui dire, non, ma grâce te suffit. Ça a mis un terme à sa prière parce qu'il a compris qu'il était pertinent lorsque lui-même était faible. Aussi, je comprends mieux le texte quand Paul dit à un moment donné, j'ai été faible comme pour atteindre ceux qui sont faibles. Maintenant, vous pourriez me poser la question, mais Pierre, où tu veux en venir? Parce que ce descriptif est très intéressant, on comprend ce que Paul a vécu. Et quel est le point de rapport, le point de convergence avec ce que nous vivons aujourd'hui? Le point de convergence se trouve dans le fait que nous sommes une église qui ressemble à Paul. Nous sommes cette église qui, à un moment donné, fait des choix pour gagner le plus grand nombre. Nous sommes cette église qui fait des choix qui sont peut-être compliqués et qui ont pu être compliqués. Non pas parce que nous prenons plaisir à ça, non pas parce que nous jouissons de ça ou que nous y trouvons une certaine satisfaction. Oui, nous en trouvons une, mais pas une satisfaction personnelle pour être une église, dans l'idée que nous aimons tellement l'église que nous voulons qu'elle grandisse avec une vision très interne. Non, ce que nous voulons, c'est être cette église qui s'ouvre, cette église qui a un regard sur cette ville de Paris, une église qui, à un moment donné, fait des choix tellement importants, des choix qui sont compliqués comme les choix que Paul a pu faire. Paul a fait des choix compliqués. Quand il a décidé de se mettre sous la loi, ce fut un choix compliqué. Quand il a décidé de se mettre sans loi, ce fut un choix compliqué. Et j'aimerais vous dire, quand Dieu permet qu'il soit dans la faiblesse, c'est certes pas un choix, mais c'est quelque chose qu'il a accepté dans sa vie. Pour autant, est-ce que c'était facile? Vous pouvez me répondre? Non. Non, ça n'a pas été facile. Et dans ce que vivait Paul, et dans ce que Paul décrit, dans le secret qu'il nous livre et qu'il nous donne, dans cette image, j'aime tellement cette image que ce tuto que Paul nous donne pour être efficace, pour être une bénédiction là où nous sommes implantés, Paul nous donne un secret. Paul a décidé de se faire tout à tous pour en gagner le plus grand nombre. Il a collé, il voulait être au plus près de ceux qu'il avait pour cible, acceptant par moments leur culture, acceptant de perdre une forme de liberté, Il a perdu sa liberté quand il a voulu se mettre sous la loi. Il a perdu sa culture quand il a accepté d'être dans la culture de ceux qui étaient sans loi. Il a accepté la faiblesse et quelque part une perte de confort pour atteindre le plus grand nombre. Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire d'une église qui est née dans ce théâtre. Et je me rappelle encore de ce 11 septembre 2016 où nous avons commencé le travail que nous faisons ici. Et mes frères et sœurs, comprenez, vous allez voir pourquoi je fais ce parallèle, parce que nous avons fait le choix, mes frères et sœurs, de perdre un peu de notre liberté. Oui, c'est pas notre théâtre. C'est pas notre maison. Alors c'est vrai, il y a des contraintes qui sont liées à ce lieu, de gestion, d'organisation. On n'a pas la liberté qu'on voudrait avoir. Alors c'est vrai, et loin de là ma pensée de rejeter ce que nous vivons ici et ce théâtre en lui-même, mais c'est normal. C'est pas notre maison, on ne peut pas y venir quand on veut, on ne peut pas y faire ce qu'on veut, quand on veut, au moment où on veut. Et oui, ça a amené des contraintes au niveau de la liberté, comme Paul, à un moment donné dans sa vie, a décidé d'accepter des contraintes de liberté en décidant de marcher sous la loi. Nous avons perdu un peu notre liberté. Oh, nous avons perdu aussi un peu notre culture. Parce que notre culture d'église, c'est d'avoir notre beau bâtiment, à nous, dans lequel on est bien, dans lequel on retrouve notre chaise. Ah, puis alors dans une église, voir un chien à l'entrée, vous y pensez pas. Avec des photos, des choses. Oui, oui, oui. Nous avons perdu dans notre confort. Nous avons perdu dans notre culture. Oui, parce que notre culture, elle est souvent, et dans nos assemblées de Dieu, nous sommes partis, mais nous sommes très liés à notre bâtiment. Très attachés. Et même, c'est un objectif bien souvent pour les églises que d'avoir un bâtiment. Et puis pendant des années, on ne pensait pas faire une église sans bâtiment. Et est-ce que ça existe une église qui n'a pas de bâtiment? Ça en est venu même à un tel point que, et c'est dans notre langage courant, quand on parle de l'église, on ne parle même plus du corps de Christ. On parle du lieu qui nous abrite. Oh oui, notre culture a été bouleversée, chamboulée. Nous avons perdu un peu de notre liberté en venant ici. Nous avons perdu un peu de notre culture en venant ici. Certes, c'est vrai. Et puis, on a aussi perdu pas mal de notre confort. Faut le dire. Alors, si nous sommes bien installés sur les fauteuils, mes frères et sœurs, moi, j'aimerais vous inviter à venir le matin, à 8h du matin, ici, pour voir les équipes se démener pour que les enceintes soient montées. Je voudrais vous inviter à voir les équipes de louanges qui ne peuvent pas répéter dans ce lieu en semaine et qui viennent le dimanche matin pour répéter ici, essayer de trouver, de prendre leur marque. On a perdu en confort en venant ici. On a perdu en confort parce qu'on ne peut pas le dire quand on veut. On a perdu en confort parce que quelque part, on bâtit des lieux qui s'adaptent à nous. Sauf que Paul, ce qu'il nous montre, c'est que lui s'est adapté. Et c'est une clé, mes frères et sœurs. J'aimerais vous dire une vérité, c'est dans notre ADN. C'est dans ce que nous sommes de nous adapter. Et la vérité, c'est parce que Paul s'est adapté qu'il a vu son message et qu'il a vu son ministère se développer. Et ce matin, on pourrait passer à côté de quelque chose d'extraordinaire, d'une clé du développement du ministère de Paul, mais... Oui, c'était un grand prédicateur. Oui, c'était un grand théologien. Oui, c'était un homme de puissance. Mais Paul ne met pas tout ça en avant dans ce texte. La chose qu'il met en avant, c'est qu'il s'est adapté. Allant au plus près qu'il pouvait, sans jamais renier Christ, de ceux qu'il avait en cible. Il s'est approché des Juifs. Il est allé au plus près qu'il pouvait. Il s'est approché de ceux qui étaient sans loi, nous, pour être au plus près de nous, nous comprendre. Il est allé au plus près des faibles en étant faible lui-même. Il a accepté, il a fait des choix difficiles. Il a fait le choix de renier sa culture. Il a fait le choix de renier son confort Souvent, Paul dira dans des textes très intéressants où il a dit, mais j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans le dénuement. Il a fait des choix comme nous en avons fait en venant ici. Mes frères et sœurs, peut-être ce matin le prix pourrait paraître élevé. Mais il est sans commune mesure avec le fruit. Et si ce matin, beaucoup pourraient dire déjaser ce lieu que nous avons ouvert à un coup, j'aimerais vous dire combien d'âmes ont été sauvées au travers de ce lieu. J'aimerais vous dire, et je veux le croire de tout mon cœur, que dans les années à venir, alors que Dieu a commencé à faire un travail au milieu de nous, dans ce lieu, comme Paul, parce que nous avons fait des choix. Des choix qui nous ont mis en question dans notre culture, des choix qui nous ont mis en question dans notre confort, des choix qui nous ont remis en question dans notre liberté. Dieu va bénir. Dieu va bénir. Je me rappelle, quand nous avons commencé à parler de déjaser et venir s'installer, on sortait d'une période tellement particulière. On sortait d'une période tellement compliquée. Les attentats qui avaient meurtri notre ville, ces attentats qui se sont jalonnés sur plusieurs années d'affilée. Et à l'époque, nous étions, Franck était là, encore avec nous, et on regardait les choses, on regardait la République, et on voyait cette place devenir un symbole. Mais aussi un lieu où les Parisiens sont venus pleurer. Un lieu où les Parisiens sont venus déverser leur souffrance. Au travers de gestes tellement symboliques, que quelque part, quand nous avons vu tout ce qui se passait autour de cette place de la République, nous sommes dit, si nous devons être comme Paul, il faut être au plus près de ceux qui pleurent. Ne pensez pas que venir à Déjazé a été le fruit d'un hasard. Ne pensez pas que Déjazé a été le pur produit d'une stratégie pour permettre à notre église de grandir. Mais derrière tout ça, il y avait ce feu, cette passion pour cette ville de Paris qui pleurait et qui se réunissait sur cette place de la République par milliers, par moments en train de pleurer, par moments en train d'exprimer une souffrance indescriptible, une incompréhension. Et si nous sommes appelés à être cette église qui décide d'être plus près d'eux, il fallait que nous soyons. Il fallait que nous nous trouvions là, où Paris pleurait, où Paris se retrouvait, pour qu'il trouve une porte d'espoir dans un néant d'obscurité. Il fallait que s'ouvre sur cette place de la République une oasis. Et un an plus tard, quand je vois ce théâtre plein à craquer, je me dis déjà, ça suffit plus. Mais j'ai la joie de me dire, Seigneur, tu as béni. Tu as béni. J'aimerais te poser la question, et ce texte termine par cette affirmation juste extraordinaire. Je me suis fait tout. Et Paul va rajouter un peu plus haut, et permettez-moi de faire le lien entre ces deux versets. Je me suis fait tout à tous afin d'en gagner le plus grand nombre. Ce matin, je parle d'une vision que nous avons eue il y a quelque temps, mais je veux croire que cette vision se prolonge encore aujourd'hui au milieu de nous. Et elle ne s'arrête pas simplement à l'implantation, parce que dans l'idée de ce que nous sommes devenus des Paul. Vous savez que Paul avait un travail. Il était fabricant de tentes. Nous sommes devenus des fabricants de tentes, mes frères et sœurs, et nous n'avons pas fini d'en fabriquer. Et je veux croire que nous allons encore aller de l'avant. Maintenant, j'aimerais aller plus loin, parce que ça, c'est une vision qui est en cours et que nous alimentons et dans laquelle nous rêvons avec les pasteurs. Mais j'aime bien cette idée que Paul dit, je me suis fait tout. Ce mot tout m'interpelle ce matin encore plus, parce que c'est quoi tout? Paul va dire, je me suis fait sous la loi. Je me suis fait comme sans la loi, je me suis fait faible. J'ai envie de rêver ce matin avec vous. Qu'est-ce que peut être ce tout pour être au plus près de Paris? Qu'est-ce que peut être ce tout pour être au plus près de ses habitants? Laissez germer, laissons germer dans nos cœurs ce que le Saint-Esprit va déposer. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, nous réfléchissons. Et depuis que je suis arrivé à Paris, je suis émerveillé d'une chose. Ce que cette ville concentre en talent, en capacité, en moyens, en esprit. Je suis émerveillé de voir cette ville et de comprendre et de commencer toujours un peu plus à comprendre cette ville. Au plus on essaie de la comprendre, au plus on l'aime. Et quand je vois la richesse culturelle qu'il y a dans cette ville, la richesse artistique qu'il y a dans cette ville, je ne peux pas juste fermer les yeux et dire « Waouh, Seigneur, c'est beau !» Et puis fermer la porte à tout un univers artistique, à des couches socioculturelles au sein de cette ville et dire « Ah, cette couche socioculturelle, elle ne m'intéresse pas. Ça ne correspond pas à ma culture. » Comprenez, ça peut être dérangeant. Je crois que si Dieu nous a placés dans cette ville, c'est aussi pour atteindre la culture de notre ville. C'est pour atteindre les sphères artistiques de cette ville. L'Église, souvent, a renié cela, a considéré que l'artistique ne devait pas appartenir à l'Église. Pourquoi ? L'art appartient à Dieu, n'est-ce pas ? C'est lui le plus grand des artistes. Et je me réjouis à l'idée que notre Église, un jour, puisse devenir artiste. Je me suis fait tout à tous, afin d'en gagner le plus grand nombre. Quand je regarde les statistiques de ce qu'est notre ville, il y a beaucoup de jeunes adultes. Et je trouve extraordinaire de voir la vision que nous avons eue et que cette Église a eue dès le départ. Une vision extraordinaire de dire, il faut qu'on investisse dans les jeunes adultes de cette ville. Et je me réjouis de voir Jap se prolonger, Jap continuer, je ne suis plus le responsable de Jap aujourd'hui. J'ai passé le flambeau, on me dit, je me réjouis de ça, et de voir que l'œuvre continue, et je me réjouis de voir cette vision, de coller à cette ville, d'être au plus près de cette ville, de cette population, de la comprendre, afin de l'atteindre et de lui annoncer Jésus. Je prie que dans les années à venir, des tout se lèvent au milieu. Je me suis fait tout, à tous, qu'est-ce que sera ton tout? Qu'est-ce que sera notre tout demain? Qui peut-être nous bousculera dans notre culture, nous bousculera dans notre confort, nous bousculera peut-être dans notre liberté, sans pour autant renier la loi que nous avons acceptée dans notre cœur, et celle de Jésus dans nos vies. Afin d'atteindre le plus grand nombre. Je voudrais laisser cette pensée sur ton cœur. Et je me réjouis de voir la culture de cette Église, imprégnée de cette volonté de s'adapter pour devenir ce tout qui atteindra cette ville. Amen. Je me réjouis de voir cette Église être au plus près de cette population, sans jamais relier qui est Christ. Afin de leur parler de Jésus, afin d'annoncer la croix, afin d'annoncer le salut en Jésus le Sauveur. Je me réjouis de voir dans cette Église se lever des projets, des hommes et des femmes avec des visions qui disent « Nous, on veut être au plus près d'eux » parce qu'ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Demain, qu'est-ce que nous serons? Je suis admiratif de ce que vous êtes, mes frères et sœurs. Je repense à Jean Widowski qui nous a quittés en début de ce mois. Il est parti dans la patrie céleste. Il est béni avec notre Dieu. Et je me rappelle, quand je suis arrivé dans cette église, Jean était là, toujours les premiers. Il était sur le côté, là à gauche, avec son épouse. Et de temps en temps, je prenais le temps de discuter avec lui. Et j'étais émerveillé de voir ce frère s'adapter. Oui, parce que notre frère était âgé, très âgé. Et quand on a commencé avec un culte, quand on en a fait deux, quand on en a fait trois, quand on en a fait quatre, voir ce frère se réjouir de ces changements, quitte le bousculer, parce que vous comprenez, quand on est habitué à venir à une certaine heure tous les jours, tous les dimanches, il y a un culte, à un moment donné, quand on vous dit, ah ben là on passe à 9h, ah là on revient à 9h30, ah ben là maintenant c'est plutôt 10h, ah ben puis finalement on revient à 9h, c'était pas mal. Tous ces changements, cherchés et avec ce but d'être au plus près, comprenez, nous nous sommes adaptés à ce que nous vivions et à cette volonté d'être cette église qui accueille, voir ce frère se réjouir et me dire, mais c'est génial, continuons, restons un exemple de ce qu'est notre Église et de l'ADN qui coule dans nos veines, cette volonté de s'adapter, d'être au plus près de Paris. Mes frères et sœurs, ce n'est pas à Paris à s'adapter à ce que nous sommes en tant qu'Église. Paul nous montre tout l'inverse. C'est à nous à nous adapter à ce qu'est cette ville, afin de la gagner pour Christ. Et bien qu'on baisse nos têtes quelques instants. Vous voulez bien qu'on se lève ? Et j'aimerais vous joindre à moi avec cette prière. Jésus. Seigneur mon Dieu. Paul nous montre l'exemple à suivre. Le conseil à suivre. Paul a fait des choix. Des choix qui ont peut-être été compliqués pour nous, mais je me réjouis de suivre le conseil de Paul. Je me réjouis d'être à l'image de ce serviteur de Dieu qui a été efficace dans son ministère. Oh Seigneur mon Dieu, je me réjouis de voir l'instrument que Paul a été, parce qu'à un moment donné, il a décidé de s'adapter. En s'adaptant, il a fait des choix. Seigneur, ces choix, nous les avons faits et nous continuerons à les faire, parce que nous ne cherchons pas à nourrir l'Église pour l'Église, nous cherchons à sauver, à gagner. Nous cherchons à être cette Église pertinente, non pas pour l'Église en elle-même, mais pour la ville dans laquelle tu nous as positionnés. Et Seigneur, mon Dieu, le cri de mon cœur, mon désir, c'est que notre Église soit au plus près de Paris. Fasse les choix qui faut faire par moment, comme nous avons fait le choix de venir nous installer à Déjazé, choix qui, par certains égards, nous font gagner, nous ont fait gagner dans certains éléments, mais nous avons perdu de la liberté. Mais nous avons aussi perdu peut-être de notre confort. Nous avons peut-être aussi perdu dans notre culture. Mais si important, à côté de ce que sont les âmes et le prix d'une âme. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons être cette Église. Renforcer en nous cet ADN qui est le nôtre. De dire, nous voulons être cette Église qui colle. Comme Paul a pu le décrire, qui colle à cette nation, qui colle à cette ville, qui colle à cette population. Nous voulons être cette Église qui, à un moment donné, porte un regard sur cette ville et dit, Seigneur, vers qui tu vas m'envoyer? Vers qui tu vas me demander de m'approcher? Vers qui tu veux que je colle? Vers qui tu veux que je sois comme? Seigneur, d'enveloppe en nous les tout. Développe dans cette église les tout. Il y a des tout qui se lèvent au milieu de nous, des tout pour gagner ce monde, pour gagner cette ville, pour gagner cette population. Quel tout tu veux être ce matin? Je me suis fait tout à tous afin de gagner le plus grand nombre. Aussi ce matin, nous voulons gagner le plus grand nombre. Nous avons dans notre cœur le désir d'être ce tout. Merci pour l'œuvre de Déjazé. Merci pour ce que tu accomplis dans cette église maintenant. Merci pour la grâce et la bénédiction que tu nous donnes de vivre et de voir en ce jour encore. Merci pour cette réunion de famille, pour fêter un joyeux anniversaire ce matin. Merci pour cette œuvre qui va de l'avant et qui continuera encore d'aller de l'avant. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Et amen.
Alléluia. Amen. Prenez place en terminant aujourd'hui. Nous voulons célébrer ce que Dieu fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Amen. Lorsque le pasteur Franck, le philâtre, m'a invité à prendre la succession, je n'ai pas pu venir tout de suite, mais la première chose que j'ai dit à ma femme, c'était « Va voir cette église. Qui sont-ils? Va inspecter. » Et le dimanche soir, elle est rentrée à la maison avec une très grande révérence sur son visage. Et ma femme m'a dit une phrase. Elle m'a dit « Dieu est dans cette église. Le Seigneur est ici. Amen. C'est sa présence. » Puis après, nous avons prié, nous avons jeûné, nous sommes venus. Je me souviendrai toujours de ce samedi soir assis sur la place de la République où dans mon cœur, je regardais les gens, je regardais toute la souffrance autour de nous. Et j'ai dit, Seigneur, oui, on veut venir servir dans cette église. Amen. Et le lendemain matin, je suis venu au culte. Je voulais écouter le pasteur Franck. Je voulais vivre l'église avant de faire quoi que ce soit. Et je me souviens avoir traversé la rue, comme peut-être vous l'avez fait ce matin, et faisant très attention que personne ne me fauche, hein, parce que je ne sais pas, monter les marches et voir une petite porte. Vous remarquez, il y a juste une petite porte. Ce verset est venu à mon esprit. Petite est la porte qui mène à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a mis une porte d'espérance sur la place de la République. Et c'est ce campus, c'est cette église. Peut-être que vous vous êtes posé une question ce matin, mais pasteur Christian, pourquoi tu n'as pas prêché? Je ne pouvais pas prêcher. Parce que je n'ai pas implanté ce campus. Et la Bible dit d'honorer ceux qui doivent être honorés. Et ce matin, je veux honorer ceux qui ont travaillé à l'implantation de ce campus en terminant aujourd'hui. C'était très important pour moi que Pierre puisse prêcher, parce qu'il n'a rien dit de lui. Comme un bon, vaillant prédicateur de l'Évangile, il a parlé de la parole. Mais il fait partie des équipiers qui ont négocié, qui ont travaillé, qui ont prospecté, lui et d'autres, et Phoebe. Et ce matin, j'aimerais vraiment les honorer. Et j'ai demandé qu'on puisse faire cette petite vidéo. Peut-être que vous l'avez déjà vue, on l'a déjà présentée à l'église. Et elle est aussi sur notre Facebook. On va vous la représenter, elle dure 3 minutes. Et c'est une vidéo pour honorer ceux qui ont été missionnés, ceux qui ont répondu à l'appel. Il y a des gens qui veulent aller jusqu'au bout du monde pour l'Évangile. C'est merveilleux, il en faut. Hein? Moi, j'ai quitté mon pays pour l'Évangile. Mais parfois, le Seigneur nous appelle à changer de quartier aussi pour l'Évangile. Amen. Et comme Pierre a si bien partagé, quitter une chaise, une place tellement bien confortable et dire, je vais faire partie des équipiers qui vont aller fonder, implanter un nouveau campus pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Alors, je sais pas, on est prêt pour la vidéo, c'est bon? Donc, on aimerait vous la présenter maintenant.
De belles choses parce qu'on a vu tellement de personnes nouvelles venir au théâtre. Je me souviens encore de cette vision de Franck le philâtre concernant l'église tente, une église qui est capable de s'adapter au lieu et qui n'est pas fixe par rapport au mur. Et la République, le campus de République fait partie vraiment de l'accomplissement de cette vision.
On a eu vraiment le privilège de voir plusieurs personnes de tout horizon qui n'auraient peut-être jamais mis les pieds dans une église, comme on a l'habitude d'aller, et qui ont accepté de venir dans ce théâtre. On a vu des personnes se donner à Christ, avoir de vraies, véritables conversions, ce qui est extraordinaire. On a eu le privilège de le baptiser et de compter maintenant parmi nous dans la famille de Dieu.
Ta vision de l'église Paris Métropole d'implanter un campus à République, elle est vraiment géniale. Elle rentre vraiment dans le contexte de la Bible qui parle du discipulat et de la multiplication. Et aujourd'hui, en fêtant ces 1 an, on est vraiment en train de célébrer une victoire d'une église qui passe à l'action, d'une église qui expérimente la grâce de Dieu et qui est en train d'impacter des vies dans la ville de Paris. Et ça, c'est vraiment exceptionnel.
On aime Paris, on aime cette ville, on aime ses habitants. Et on constate une chose, c'est qu'il y a de moins en moins d'églises sur Paris. Et notre cœur bat pour cette ville, bat pour ses habitants, avec cette volonté de dire, est-ce qu'on peut rêver d'avoir par place à Paris, par grande place à Paris, une église, un endroit où on prêche l'évangile, où on annonce Jésus, où on annonce que Dieu peut transformer les cœurs et les vies. Alors voilà, le projet global est là, notre vision est là, cette vision de se dire que ben, dans les années futures, est-ce qu'on ne peut pas couvrir Paris de tentes, couvrir Paris d'églises dans des endroits populaires, dans des endroits où il y a beaucoup de gens, pour qu'ils entendent parler de Jésus.
L'aventure continue et joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, campus République. Joyeux anniversaire, ma chère République.
L'aventure continue de plus belle cette année. Joins-toi à l'équipe pour une deuxième année.
Salut à tous!
Amen. C'est une belle aventure, amen. Et elle n'est pas terminée. Et on aimerait vous inviter, comme Pierre l'a si bien prêché, ça a été même dit, hein, le campus sur Bastille est vraiment saturé. Donc si le Seigneur le met sur votre cœur, de changer de campus tous les dimanches. Amen, moi j'ai changé de pays. Hein. Donc peut-être juste de changer de campus, ça va, faire de la place pour que l'Église puisse aussi continuer de grandir vraiment sur Bastille. Et aussi, ici aussi, on a besoin d'aide. Amen. J'aimerais honorer quelques personnes aujourd'hui en terminant. Et je vais leur demander, je ne sais pas s'ils sont tous là, on n'a pas tout vérifié. Il y a des équipiers aussi qui sont autour de vous, là, ils sont en train de travailler. Mais j'aimerais vraiment les honorer aujourd'hui en terminant. Tous les équipiers, combien à main levée, vous faites partie des équipiers de ce campus? Levez la main. Voilà, quelques-uns. Maintenant, levez-vous. Si vous avez vu quelqu'un qui a levé la main, levez-le. Levez-le à l'école. Voilà. Plusieurs aussi là-haut. Donc, maintenant, vous allez descendre du 18e balcon, vous allez venir jusqu'ici pour joindre à moi. Venez, je vous donne le temps de venir. Venez, tous ceux qui sont debout maintenant, vous êtes figés, on vous a vu, vous ne pouvez pas retourner dans l'ombre. Vous venez vous joindre à moi sur l'estrade, on veut vous honorer. J'aimerais remercier Florence. Est-ce qu'elle est là, Florence, à l'accueil, cuirassée? Quelqu'un allait chercher Florence, je ne veux pas qu'elle se cache, personne ne peut se cacher aujourd'hui. L'équipe du Café Communion, vous venez. Jonathan et Hélène sont sur Londres, ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Viens, Benjamin. Ne t'inquiète pas, Jésus peut faire la sono une minute sans toi. Il n'y a rien qui va exploser. Je sais que c'est comme le pilote qui quitte le cockpit, c'est très dangereux. Mais Benjamin va venir se joindre à nous. L'équipe d'intercession, les intercesseurs qui sont en train peut-être de prier en bas, si quelqu'un peut aller les chercher, Gaëlle, je ne sais pas si elle est là, Gaëlle, ou peut-être au deuxième. Alain, notre frère Alain, vient. Venez vous joindre à nous. Fabrice, Marjorie, venez aussi. Andy et Fanja, venez. Samuel et Isabelle, j'ai vu Samuel. Voilà, c'est bien. Ils sont là, super. J'aimerais remercier le pasteur Franck Le Filâtre. Il n'est plus là, je ne sais pas s'il va m'entendre. On aimerait vraiment lui dire merci et l'honorer. On veut vraiment prendre le temps d'honorer tout le monde. J'aimerais honorer et remercier l'équipe pastorale, Pierre. Et ton épouse, venez aussi, Didier, Isabelle, venez. Venons tous ensemble. J'aimerais remercier l'équipe pastorale, j'aimerais remercier le conseil d'administration qui a cru à ce projet. Amen. C'est important, ils ont cru vraiment à ce projet. On aimerait les honorer aujourd'hui. J'aimerais honorer et remercier Phoebe. Je ne sais pas où elle est, Phoebe. Elle est quelque part? Elle est en bas. Viens, Phoebe, je sais que tu es enceinte, t'inquiète pas, tu ne vas pas tomber. Si tu tombes, il y a au moins 30 personnes qui peuvent t'attraper. Ok, oui. Et puis, elle va venir. Et Voilà. Et en terminant, j'aimerais vous remercier, vous. Amen. Tous ceux qui ont donné, tous ceux qui ont donné à chaque semaine leurs dîmes et leurs offrandes, finalement, voilà, nous avons implanté un campus qui touche les âmes aujourd'hui. Amen. C'est notre plus cher désir. Est-ce que c'est votre désir que des âmes soient sauvées? Et ça a été fait, on veut vraiment continuer de le faire et aller dans ce sens et avancer de plus en plus. Donc, maintenant, vraiment, au nom du Seigneur, merci. Alors, c'est ça, c'est tous des missionnaires, c'est beau, hein? Nous voulons aussi honorer et remercier M. Bouquin, qui est le directeur de ce théâtre, et Loupé, qui est la responsable de l'équipe jusqu'à ce moment. Oui, de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et puis, c'est une aventure qui continue aussi pour la prochaine année. Amen. Amen. Maintenant, quand il y a un anniversaire, eh bien, il manque deux choses. Hein. Il manque une petite musique, là. Ça va? Et d'habitude, il y a un gâteau. Je le vois, il arrive. Il est en train de se préparer. Ça va venir. Bon, vous savez, il y aura une seule bougie. Hein. C'est le premier anniversaire. Donc voilà. On m'a dit qu'il y a aussi un shooting photo ou... qui passe. Ah, qui peuvent aller voir. D'accord, ok, au premier étage. Voilà. Cette partie est sans gluten. Il ne faut pas le dire à ma femme parce qu'il y en a vraiment beaucoup là. Mais voilà, on peut se lever ensemble. Alors, prenez la main de la personne qui est à côté de vous. Et on va juste terminer en priant aujourd'hui en disant, Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu feras, Seigneur. Seigneur, nous prions aussi pour M. Bouquet, nous prions pour Loupé, Seigneur, nous prions pour ce théâtre, Seigneur. Bénis ce théâtre. Bénis leur travail. Bénis-les. Dieu, tu es vivant. Pose ta main sur eux, Seigneur. Nous sommes honorés de leur présence parmi nous aujourd'hui. Et Seigneur, merci pour toute cette équipe qui a implanté ce campus, Seigneur. Tu les honores aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur, merci pour les prochaines semaines. Merci pour les vies qui seront touchées, Seigneur. Merci pour l'espoir que nous avons en toi, Seigneur. Seigneur, comme il a été prêché avec excellence ce matin, Seigneur, nous voulons nous faire tout à tous afin de gagner le plus grand nombre, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié tous ceux qui l'aiment et donnent une grande acclamation. Amen. Amen.